France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, où en est l'enseignement de la musique en France? Alors que le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite, et il n'est pas le premier, qu'il y ait une chorale dans chaque collège, on va tenter de comprendre pourquoi ce n'est pas encore le cas partout, quels sont les obstacles rencontrés, peut-être manque de locaux, de créneaux horaires, d'enseignants spécialisés, ce qui est vrai au collège, l'est sans doute aussi au lycée, et peut-être plus encore en primaire. On va d'ailleurs s'arrêter sur les cours de musique à l'école d'une manière générale, souvent les parents pauvres de l'enseignement. Ce qui oblige les enfants à aller apprendre la musique ailleurs, dans le public ou dans le privé. Les conservatoires sont tellement prisés qu'à Paris, ils en sont arrivés à organiser un tirage au sort pour les inscriptions. Alors ce soir, on se dit tout, que vous soyez parent, élève, enseignant, dans l'enseignement général ou spécialisé, que vous fassiez de la musique en amateur ou rêviez de devenir professionnel. Appelez-nous pour nous faire part de vos témoignages ou poser vos questions. À nos côtés, pour répondre à ces questions, la chef d'orchestre Claire Gibaud, directrice artistique et musicale du Paris Mozart Orchestra, auteur d'un rapport sur l'éducation artistique et culturelle pour le Conseil économique, social et environnemental. Rebonsoir Claire Gibaud.
Bonsoir Claire Servagin.
Marianne Blaillot, déléguée générale de l'association Orchestre à l'école. Bonsoir à vous, Madame Blaillot.
Bonsoir.
Et en duplex de Nantes, Jean-Marcel Kipfer, qui est professeur de musique et président de l'association Conservatoire de France, qui regroupe quelques 200 établissements dans tout le pays. Bonsoir Monsieur Kipfer.
Bonsoir.
Nous serons également en ligne dans quelques minutes avec le pianiste-compositeur Jean-François Zigel, qui est producteur, vous le savez, de La Preuve par Z, tous les samedis sur France Inter pour nous joindre. Le numéro, c'est toujours le même, le 01 45 24 7000.
Claire Servagent, le téléphone sonne.
Et autant vous le dire, vous êtes très, très, très nombreux à nous appeler ce soir. On prend tout de suite un premier appel, c'est Philippe qui nous appelle de Paris. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Vous êtes professeur de musique ?
Je suis professeur d'éducation musicale en collège, et dans le 15e à Paris, au collège de Staël. Je téléphonais d'abord, merci pour la qualité de vos émissions, et puis aussi je suis très heureux d'entendre depuis quelques minutes la voix de Claire Gibaud, avec qui on avait fait un projet Ravel il y a pas mal de temps, avec le premier collège où j'étais enseignant.
Ouais, voilà. Elle se souvient de vous.
Voilà. Alors, sinon,
est-ce qu'il y a une chorale dans votre collège ?
Il y a une chorale de 92 élèves dans mon collège.
Et c'est vous qui vous en occupez ?
C'est moi qui m'en occupe, bien sûr. Alors, donc, c'est une chorale que j'ai mis en place. C'est ma deuxième année dans ce collège. C'est une chorale que j'ai mis en place l'année dernière. Il y avait une attente, une forte attente des élèves, et je pense que ça a été d'abord ça le levier qui a permis d'installer cette chorale.
Claire Gibaud vous demande combien d'heures vous consacrez à cette chorale par semaine ?
Je consacre 3 heures par semaine parce que j'ai un emploi du temps. J'ai 16 classes sur le collège alors que normalement j'ai 18 heures de cours. La principale du collège s'est arrangée pour que je puisse faire mes 2 heures de complément plutôt que de partir sur un autre établissement en chorale, puisqu'elle a vu que j'étais très volontaire pour monter une chorale sur le collège. Et puis j'ai 1 heure supplémentaire pour compléter, et je vois la chorale en groupe équilibré pour leur donner une expérience polyphonique en groupe équilibré de 3 heures. Donc c'est une situation idéale.
Et vous n'avez pas attendu l'annonce du ministre. Vous pensez en tout cas que c'est une bonne chose, qu'il faut généraliser ce genre de choses ?
Oui, c'est une bonne chose. Il faut le généraliser parce que je pense que une chorale dans un établissement peut améliorer et peut avoir des répercussions sur d'autres sphères de l'établissement.
Vous voyez les élèves changer, c'est ça, quand ils viennent chanter ?
Oui. Il y a des élèves particulièrement des fois difficiles en classe, difficiles à gérer en classe, même en éducation musicale. Mais quand on arrive à en intégrer certains d'entre eux dans la chorale, ça a permis à certains d'entre eux d'améliorer leur comportement, de se recadrer, de trouver aussi de la valeur, parce qu'ils découvrent des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient le faire, et donc ça c'était vraiment pour moi, j'ai découvert que la chorale était vraiment quelque chose, un levier dans l'établissement.
Voilà, expérience plus que positive. Un grand merci, Philippe, voilà, de nous avoir appelé Claire Gibault et en trépigne.
Oui, j'avais surtout rentré en contact avec moi pour que notre orchestre, le Paris Mozart Orchestra, vienne accompagner votre chorale, qu'on fasse un projet ensemble.
Voilà, expérience positive. Marianne Blaillot, vous qui êtes déléguée générale de l'association Orchestre à l'école, juste peut-être un mot concernant cette idée de chorale dans tous les collèges.
Ouais, c'est un signal positif. Ça montre le positionnement comme quoi la musique à l'école construit l'être et que ça doit être généralisé partout, participe à l'épanouissement des enfants. C'est un signal très très positif de la part des ministres. Après, il faut voir les moyens qui seront mis et puis il faut que ces chorales évidemment viennent en complément des projets qui existent, des orchestres à l'école et d'autres projets artistiques et culturels qui vont un peu plus loin que les chorales et qui fonctionnent depuis longtemps aussi.
En tout cas, déjà, c'est une bonne chose pour vous. On va à Nantes où nous attend Jean-Marcel Kipfer, qui est professeur de musique, président de l'Association Conservatoire de France. Je vous pose la même question à vous aussi concernant cette idée de mettre une chorale dans chaque collège, là où, en tout cas, ça n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Écoutez, l'idée est évidemment bonne, mais elle n'est pas nouvelle. Enfin, elle n'est pas nouvelle puisque des plans de rapprochement entre l'éducation nationale, les établissements d'enseignement spécialisés, sur l'intrusion de la musique et dans les établissements scolaires de façon plus forte, sans remonter à très loin, il y a eu déjà beaucoup d'initiatives qui ont été annoncées dans ce domaine-là. On ne peut que se réjouir qu'elle soit également maintenant, en espérant que ça va pouvoir se concrétiser et que sur le terrain, il y aura effectivement, en termes de moyens et de réunions de compétences, la possibilité de faire en sorte que ce ne soit pas que des paroles. Je voudrais revenir un instant, si vous me le permettez, sur la présentation que vous avez faite du sujet concernant cette thématique de ce soir. Vous avez cité, vous avez dit, souvent des familles sont obligées de faire de la musique ou de faire de la musique dans des conservatoires ou dans des
établissements privés. J'ai dit ailleurs qu'à l'école, parce qu'effectivement l'école ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Effectivement, on peut pas se contenter de ce parcours-là.
Dit très simplement, beaucoup de conservatoires, d'établissements d'enseignement artistique travaillent conjointement avec l'éducation nationale à travers des dispositifs de classes à horaires aménagés, à travers le biais des musiciens intervenants en milieu scolaire, conjointement avec l'éducation nationale. Donc il me semble qu'on ne peut pas opposer l'un à l'autre, mais évidemment notre souhait, et ce que nous faisons et ce que nous cherchons à développer encore plus, c'est de continuer ce travail en commun.
Alors autant pour moi. Merci beaucoup Jean-Marcel Kipfer. Je reviendrai vers vous dans un instant, mais je vous avais dit que Jean-François Zigel souhaitait intervenir au début de cette émission avec un message peut-être à faire passer aux auditeurs de France Inter. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Que souhaitiez-vous nous dire en ce début d'émission consacré à l'enseignement de la musique ?
Eh bien, c'était pas, je voulais pas intervenir sur le détail de l'enseignement parce que c'est un problème complexe avec beaucoup de cas particuliers. Enfin voilà, je ne me sens pas assez compétent pour cela. Et c'est vrai que moi, je suis sensible à l'image symbolique de la musique et particulièrement de la musique classique en France, qui n'est pas une bonne image. J'ai fait il y a un an une tournée à Taïwan et j'ai observé un public jeune, une image formidable de la musique classique, une image forte et belle. On considère que la musique classique nourrit les sens, qu'elle élève l'âme, qu'elle enrichit l'esprit. Il y a même des communications et des publicités gouvernementales pour inciter les parents à faire de la musique à leurs enfants. Et la directrice de l'Orchestre Philharmonique de Taipei me disait qu'ils étaient presque inquiet du fait de ne pas avoir assez de personnes de plus de 50 ans comme abonnées à leur programme et à leurs concerts. Donc le problème ne vient pas de la musique classique, elle vient de l'image qu'elle a. L'image n'est pas bonne de la musique classique. Regardez les séries, regardez les films, regardez la plupart des discours. Musique classique est toujours associée à quelque chose de vieux ou de répétitif, de routinier, de poussiéreux, etc. Et c'est cette image symbolique de la musique classique qu'il faudra arriver à changer parce qu'elle entraînerait un changement d'attitude des politiques, elle entraînerait un changement d'attitude du public. Donc moi, je suis très sensible à ça. Actuellement, en France, à chaque fois qu'on parle de musique classique, au lieu de considérer que c'est un trésor, au lieu de parler de l'orchestre, au lieu de parler de Beethoven ou de Mozart, on se met à parler sociologie. On incrimine la musique classique parce qu'on pense que bon, il y aura un public un peu plus aisé socialement, qui aurait un peu plus de moyens financiers que d'autres musiques. Et moyennant quoi, alors que les concerts de musique classique sont parmi les moins chers qui soient, et qu'au contraire, les concerts des groupes de rock ou de certains artistes de variété sont absolument hors de prix, on continue à véhiculer l'image d'un art élitiste ou d'un art un peu poussiéreux, enfin peu importe, et on n'aide pas les gens à avoir une bonne image de la musique classique, alors qu'il y a une bonne image du théâtre, de la danse, de la littérature, en tout cas meilleure, il me semble. Donc il faudrait travailler à changer cette image symbolique.
Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Jean-François Zigel. Et puis, on vous dit quoi, demain, midi, sur France Inter, pour la preuve par cèdre. En tout cas, je pense que votre message, Claire Gibault, le reçoit 5 sur 5, parce qu'elle y travaille, elle. En tout cas, vous y travaillez, Claire Gibault, à enlever cette image élitiste.
D'abord, on va in situ à l'intérieur des établissements scolaires. Mais par exemple...
Avec votre orchestre.
Oui, hein. Par exemple, on fait venir... C'est parce qu'on est allé les voir qu'ils acceptent de venir dans une salle parisienne. Et ça m'est arrivé de faire des concerts Mozart devant 800 jeunes des cités, ne connaissant pas du tout ce répertoire. Mais quand on leur présente, qu'on leur donne quelques petites clés pour écouter, ils font des standing ovations aussi. Ils aiment. Et là, c'est des salles remplies de jeunes.
Marianne Blaillot, déléguée générale de l'association Orchestre à l'école. J'imagine que vous, à travers le travail que vous faites, vous participez évidemment à changer cette image.
Je pense
élitiste, poussiéreuse de la musique classique.
Le meilleur moyen, en fait, de faire aimer la musique classique aux enfants, c'est de la faire pratiquer. Et c'est vrai que souvent, les enfants, au départ, nous disent la musique classique, c'est pas mon style ou c'est pas mon répertoire. Mais une fois qu'ils la pratiquent et qu'ils la vivent, évidemment, ils la voient différemment. Et dans les orchestres à l'école, dans ce dispositif, en général, on ne se concentre pas uniquement sur la musique classique parce que ça n'est pas la seule culture valable. Ça fait partie des choses des répertoires qu'on travaille en orchestre à l'école, donc un répertoire éclectique, mais on fait aussi participer les enfants à des concerts en auditeurs, et puis on monte des projets. Alors on a un projet notamment avec le Paris Mozart Orchestra en 2019 où une œuvre va être créée pour les orchestres à l'école et le Paris Mozart Orchestra, et les enfants vont se mélanger aux musiciens pour pratiquer cette musique. Là, c'est de la musique contemporaine, mais voilà.
Et vous travaillez comment avec les enseignants de musique des écoles ?
Oui, tout à fait. L'orchestre à l'école a lieu dans l'établissement scolaire, mais c'est un partenariat avec un établissement d'enseignement de la musique, donc la plupart du temps des conservatoires, écoles de musique, et qu'on est dans des zones très très rurales, il se peut qu'on ait des associations musicales.
Donc vous rejoignez ce que disait Jean-Marcel Kipfer tout à l'heure, il y a symbiose, il n'y a pas forcément opposition. Vous travaillez en bonne intelligence ensemble, c'est une coopération.
Il y a 1200 classes 1230 classes orchestres sur le territoire, et à chaque orchestre à l'école s'appuie sur l'établissement d'enseignement de la musique. On ne pourrait pas faire l'enseignement d'orchestre, d'instrument sans les spécialistes.
Alors on retournera dans un instant au standard de France Inter, mais Jean-François Zigel, vous êtes toujours là et vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Jean-François Zigel en ligne sur l'antenne de France Inter, oui, non ? Visiblement, nous l'avons perdu. Oui. Alors nous allons repartir au standard de France Inter où nous attend cette fois-ci Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous êtes nous appelé de Tours, c'est bien ça ?
De Bordeaux. J'étais à Tours auparavant, mais je vous appelle de Bordeaux. Alors je voulais saluer France Inter pour les émissions musicales et les chroniques qui parlent de la musique autrement. Dommage que la musique vienne encadrer, la publicité vienne encadrer tout ça. Ah. Nos amis montent pas les oreilles.
Mon pauvre, ça, je vais pas pouvoir vous aider beaucoup. Hein.
Donc, voilà, je voulais parler de l'apprentissage de la musique, enfin d'initiation. Je trouve qu'il est contre-productif que l'apprentissage du solfège soit un préalable à la pratique musicale, un peu comme l'apprentissage de la grammaire, des verbes irréguliers ou des déclinaisons est un obstacle à l'apprentissage des langues.
Alors on va poser la question peut-être à Claire Gibault sur cette question du solfège qui en fâche quand même un certain nombre.
Mais pour moi c'est un tout petit peu dépassé parce que par exemple je siégeais au conseil d'établissement du conservatoire du Mans lundi dernier, puis je suis allée au conseil d'établissement du conservatoire du 9e arrondissement. Il y a plusieurs cursus et les professeurs de conservatoire, ça y est, sont tout à fait d'accord de faire commencer des pratiques instrumentales ou chorales sans commencer par le solfège. Vous savez, il y a du solfège dansé, on ne dit pas les notes, on sait. Et je pense qu'avec orchestre à l'école, c'est. Vous savez, Graciane Finzi, cette compositrice merveilleuse qui va écrire pour notre projet, elle sait écrire pour des orchestres qui ne savent ni lire la musique et qui jouent à peine d'un instrument, quoi.
Marianne Blaillot.
Oui, évidemment, en orchestre à l'école, on s'adresse à des populations justement qui n'auraient jamais eu accès ni l'idée de faire la musique, et on commence tout de suite avec l'instrument. C'est-à-dire que dès la première semaine, les enfants apprennent l'instrument par pupitre avec un professeur d'instrument qui vient et qui leur apprend les notes et les rythmes dont ils vont avoir besoin en orchestre. Et la deuxième heure est consacrée à l'orchestre, et donc il n'y a pas de formation musicale préalable. La formation musicale se fait avec l'instrument et dans le cadre du projet.
Alors, Jean-Marcel Kipfer à Nantes sur cette question. Vous êtes revenu, il y a eu un petit souci technique. Je ne sais pas si vous avez pu entendre la question de Jean-Pierre de Bordeaux entre-temps, qui nous posait la question du solfège, qui peut en rebuter certains, cette fameuse question du solfège. Qu'est-ce que vous dites, vous?
Je n'avais pas entendu la question, mais à l'écoute des derniers échanges que j'ai pu capter, j'ai bien entendu de quoi il s'agissait. Peut-être qu'il faut d'abord rappeler que il y a 40 ans maintenant, il y a eu une réforme de la formation musicale. C'est-à-dire que la dénomination a changé, et si la dénomination a changé, c'est bien parce qu'il y avait aussi la volonté de sortir de cet enseignement qui, je crois d'ailleurs que ça a été dit, était un peu grammatical. C'est un petit peu comme si on imaginait que des cours de français ne seraient que des cours de grammaire. Alors, la grammaire, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses autour. Je me souviens je crois que c'était sur votre antenne il y a quelques années, un ministre de la Culture avait été interrogé là-dessus, et il avait, sur un ton un peu fataliste, dit « Ah oui, le solfège, et pourtant c'est obligatoire ». Il me semble que vraiment là-dessus, il y a de nombreux établissements d'enseignement artistique qui ont largement su évoluer, et maintenant les 2 ans de solfège obligatoire avant de commencer un instrument, comme disait d'ailleurs Marine Blaillot, ça n'a plus court véritablement, enfin, ou de façon très très épisodique et très partielle. Et on a bien conscience que maintenant on apprend à parler avant d'apprendre à lire, et que on tient des crayons pour dessiner avant de savoir écrire, et que donc
c'est pas un obstacle, hein. Voilà,
et n'est pas un obstacle, et que
décourager.
Le solfège ne doit pas servir de bouc émissaire, ça, sur par rapport à des apprentissages instrumentaux, des apprentissages de la musique, et que de ce point de vue-là, il y a vraiment eu une évolution très importante, et je pense notamment aussi aux professeurs qui enseignent ces disciplines, qui ont vraiment, pour la plupart, fait de gros efforts d'adaptation pour sortir un petit peu de ce, entre guillemets, solfège bashing.
Merci.
Et que d'ailleurs, cette réforme continue. Il y a eu très dernièrement des assises, en début de semaine, je crois, à Dunkerque, au sujet des 40 ans justement de cette réforme de la formation musicale, et on sent bien qu'il y a toujours cette volonté de continuer à avancer dans des interrogations pédagogiques, d'une adaptation à différents publics.
Et à réfléchir en général. Merci beaucoup Jean-Marcel Kipfer. Et vous êtes tellement nombreux ce soir qu'il faut que je vous bouscule un petit peu, parce que effectivement il y a tellement d'appels. Il y a notamment Solange qui est en ligne de Rennes. Bonsoir Solange.
Bonsoir Claire Servageant, bonsoir à tout le monde.
Bienvenue à vous.
Merci. Je suis un peu perturbée parce que moi je vais revenir à des choses plus terre à terre. Là vous parliez de solfège, de lecture musicale, etc. Moi je vais parler de moi, d'une maman qui souffre, une maman seule avec son enfant de 10 ans, qui est au RSA. Il y a eu je suis descendue socialement, à une époque tout allait bien mais j'avais pas d'enfant. Et j'ai une enfant, parce que vous avez parlé de découverte musicale, la peur, l'élitisme, non, j'ai emmené ma fille à des concerts, j'ai emmené... Très bien tout ça. Mais il y a un moment, quand elle a goûté à tout ça, elle s'appelle Lou, ma fille. Elle a goûté, elle a vu. Elle a vu les pianistes, elle a vu les musiciens, les orchestres, les spectacles. Elle a aimé. Et depuis l'âge de ses 4 ans, elle a 10 ans aujourd'hui. Chaque année, vous savez, en septembre, on inscrit à aux activités sportives, etc. Et chaque année, elle me demande si elle peut faire du piano. Je l'inscris à autre chose, parce que je ne peux pas. Je vais avec 650 euros. Elle veut faire du... Alors, découvrir, oui, c'est bien. Mais elle veut vraiment en faire. Et elle me réclame chaque année. Et j'ai une fille qui est magnifique, hein, parce qu'elle ne le... elle sait que je ne peux pas. Donc, voilà.
Alors, on va essayer de trouver une solution.
Comme ça, à la maison, je ne suis pas musicienne. J'aime la musique, mais je ne suis pas musicienne. Et elle veut vraiment pratiquer. Elle veut vraiment... Alors, du coup, je ne l'emmène plus voir les orchestres. Je ne l'emmène plus parce que j'ai des petits tickets privilégiés, des fois, pour aller à l'OP. Mais non. Pourquoi la frustrer davantage? Parce que je me suis renseignée à l'association à côté... Ça a l'air de rien, c'est 400 euros, plus de 400 euros pour l'année. Et elle va pas en faire qu'une année, je la sens. C'est d'autant plus douloureux.
Il faut qu'on trouve une solution, Solange. Il faut qu'on trouve une solution. On va écouter nos invités vous répondre. Il doit y avoir forcément une solution. Je ne sais pas s'il y a des mots, ça arène en tout cas. Il y a forcément peut-être quelque chose à faire, Claire Gibault.
Non, mais moi, quand j'ai commencé la musique, c'était il y a donc longtemps... C'était gratuit, le conservatoire. Mon père était un petit employé de caisse d'épargne. Mes 4 enfants ont pu aller au conservatoire. Donc, moi, je trouve que ça devait faire partie de l'enseignement général. Donc, il y a le prix, que je trouve insupportable. J'ai vu que certains cursus coûtent 900 euros. Comment, si on a plusieurs enfants, ou même un seul? Puis, il n'y a pas assez de place dans les conservatoires. On ne peut pas avoir une place en classe de piano, de violon, de violoncelle et guitare. Donc, on oriente des enfants qui voulaient faire du violoncelle sur un instrument, sur le trombone ou des choses comme ça. Il n'y a pas cette place. Il y a encore une chose qui ne va pas, c'est que dans les établissements, les collèges, il y a des salles de gym, il y a des gymnases, il n'y a jamais un auditorium. Et quand même, il faut un lieu pour faire de la musique. C'est la moindre des choses. Et pourtant, la seule façon pour que l'enseignement musical soit démocratisé le plus, c'est que la sensibilisation se fasse dans le milieu scolaire, parce que c'est là qu'on touche tous les enfants.
On va aller à Nantes où nous attend Jean-Marcel Kipfer. Votre association regroupe 200 établissements dans tout le pays. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous, à Solange, dont la fille rêve de faire du piano? Qu'est-ce que vous pourriez lui proposer comme solution, vu ses moyens financiers?
Si j'ai bien compris, il s'agit de moyens financiers. De ce point de vue-là, je pense que la majorité des conservatoires, en tout cas ceux que je peux connaître, à la fois par mes activités professionnelles et au sein de l'association professionnelle Conservatoire de France, pratiquent des tarifications et des droits d'inscription qui, d'abord, sont des tarifications qu'on appelle solidaires, c'est-à-dire que la plupart sont aux quotients familiales ou avec des tarifs différents suivant les revenus des familles, que beaucoup d'entre eux, les tarifs d'inscription sont vraiment tout à fait abordables. J'ai plusieurs exemples en tête où vraiment on est sur des tarifs annuels qui sont tout à fait abordables pour des familles, même avec des revenus. Je comprends très bien la difficulté qu'il peut y avoir. Après, ce sont peut-être d'autres types de barrières aussi qui font que ça paraît inaccessible à certaines personnes, parce que il y a une représentation aussi de ce que pourrait être à long terme cette auditrice l'a très bien expliqué, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas que son enfant simplement soit sensibilisé un an ou un an et demi ou 2 ans, mais que ça puisse être à long terme. Effectivement, c'est aussi sur le long terme qu'il faut pouvoir s'inscrire dans ce long terme.
C'est une vraie question, hein. Il faut pouvoir permettre à l'enfant d'aller au bout de son rêve.
Et je pense qu'à travers cette question, il y avait aussi la question des procédures d'entrée, dont on pourra peut-être reparler à un moment ou à un autre, parce que je pense que c'est une préoccupation de pas mal d'auditeurs aussi. C'est comment est-ce qu'on fait pour accéder, on a l'impression que l'accession dans ces établissements d'enseignement artistique, que ça s'appelle le conservatoire, école de musique, atelier musical et maison des arts, il y a plein de dénominations différentes, mais finalement pour des missions qui sont sensiblement... Mais
puisqu'on y est, parlons-en tout de suite, hein. Après tout, pourquoi est-ce qu'il y a ces problèmes d'accès? C'est parce qu'il y a trop de demandes par rapport au nombre d'établissements, c'est tout simplement ça? Il n'y a pas assez d'endroits?
Écoutez, on est quand même en France avec un système d'enseignement spécialisé, encore une fois, de conservatoire, d'école de musique, appelons-les comme on veut, qui est absolument unique. Et pour échanger souvent avec des artistes qui viennent de l'étranger, beaucoup nous envient ce maillage territorial qui est une véritable richesse, clairement. Après,
on en arrive à des aberrations comme à Paris où les parents passaient la nuit dehors devant le conservatoire pour inscrire leurs enfants, puis ça n'a pas suffi, puis il y a eu le tirage au sort. C'est un petit peu fou quand même.
Alors, les procédures d'entrée, je pense que s'il y avait une bonne solution, depuis le temps que de nombreux établissements sont confrontés à ce problème-là, s'il y avait une bonne solution, on l'aurait trouvée. Après, il y en a des très mauvaises. Et j'aurais envie de dire que la plus mauvaise, c'est que la procédure ne soit pas claire et ne soit pas clairement énoncée, parce que du coup, ça crée des incompréhensions, ça crée des sentiments d'injustice. Et ça, évidemment, pour les familles, pour les potentiels usagers de ce service public, il faut quand même bien rappeler ça, c'est évidemment difficilement supportable. Après, de nombreux établissements ont mis en place quand même depuis pas mal d'années maintenant, des procédures de ce que cette dame, cette auditrice décrivait, des procédures aussi de sensibilisation. Il s'agit de faire découvrir à un enfant différentes formes d'expression artistique, qu'elle soit dans le domaine de la musique où beaucoup de conservatoires sont aussi pluridisciplinaires, musique, danse, théâtre, etc. Et à travers ça, lui permettre au bout d'un moment de faire un choix en connaissance de cause et de mesurer quelle est la véritable motivation d'un enfant à accéder à s'inscrire
cet enseignement
dans une formation.
Merci,
à terme.
Merci beaucoup Monsieur Kipfer. Marianne Blaillot, un petit mot puis on repart tout de suite au standard de
oui,
France.
Oui, voilà, juste pour préciser qu'effectivement les orchestres à école permettent de toucher tous les publics et c'est complètement gratuit pour les familles et c'est le sens du partenariat avec les collectivités. Et donc, à Rennes, je sais qu'il y a plusieurs écoles qui ont des orchestres à l'école. Peut-être cette dame peut
alors voilà, Solange, j'espère que vous avez entendu.
Se renseigner pour...
Voilà. Et puis, on parle aussi de démos, on en parlait tout à l'heure. Et puis, il y a d'autres initiatives. Évidemment, c'est pas partout, mais je veux quand même parler de la maîtrise de Radio France qui est installée à Bondy.
Oui,
hein, c'est quand même très important. On repart au standard.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Pierre-Marie est en ligne, bonsoir à vous.
Oui, bonsoir.
D'où nous appelez-vous?
Je vous appelle de Valençay, un petit village dans l'Indre.
Et chez vous, on peut faire de la musique facilement?
Alors, facilement, oui, on a un orchestre que je dirige en tant que bénévole, un orchestre amateur qui fait suite à une école de musique. Donc déjà, je voulais vous féliciter pour vos émissions et dire un grand bravo à Madame Gibault pour le Paris Mozart Orchestra. Donc j'ai une question pour vous. L'accès à la culture et à l'apprentissage de la musique, l'éducation musicale en milieu rural est compliqué, dû à l'éloignement des conservatoires et la parcimonie des écoles de musique. Quelle solution est-ce qu'on pourrait apporter en extrascolaire à l'éducation musicale pour tous?
Bonne question, Pierre-Marie. Merci de l'avoir posée. On va demander à Monsieur Kipfer, mais peut-être un mot d'abord, Claire Gibault.
Il y a des conservatoires à rayonnement départemental, mais il y a aussi dans tous les départements des écoles de musique. Mais orchestre à l'école a des implications dans des villages. Par exemple, l'année prochaine, on a un projet avec des petits villages de la Sarthe.
Voilà, donc ne vous découragez surtout pas.
Et qu'il rentre en contact aussi avec moi. On va plein de projets.
Vous allez avoir du courrier, Claire Gibault, ça je vous le dis tout de suite. Monsieur Kipfer, qu'est-ce que vous pouvez répondre vous aussi à Pierre-Marie? Mais je vous demanderai d'être un petit peu court parce que il y a un véritable embouteillage au standard.
C'est un sujet tellement important, cet accès. Alors, je crois que effectivement, on a parlé des dispositifs, que ce soit des mots, orchestre à l'école, il en existe d'autres, sur lesquels évidemment il faut que, et d'ailleurs on le fait déjà, hein, de travailler ensemble avec entre les structures d'enseignement spécialisées et ces dispositifs-là pour offrir aussi une continuité et une cohérence point de vue des parcours artistiques et pédagogiques. Encore une fois, je reviens sur la richesse quand même du maillage territorial. Alors, peut-être que dans certaines collectivités rurales n'ont pas chacune leur propre école de musique, leur propre établissement. Il en existe beaucoup, il en existe de plus en plus aussi dans le milieu rural, et notamment à travers des intercommunalités ou des regroupements d'établissements. Mais encore une fois, je crois que on a quand même pas mal de possibilités à proximité
pour se renseigner, avoir, faut chercher.
Pour s'enseigner, ouais. Pour se former. Et puis il y a aussi tout le volet d'éducation artistique et culturelle qui se développe énormément, et c'est évidemment une très bonne chose.
Alors, merci beaucoup. Marianne Blaillot, une petite question concernant l'école quand même, puisque c'est là que vous intervenez. Quand vous souhaitez intervenir, est-ce que globalement vous trouvez des enseignants formés, des créneaux horaires disponibles, des locaux pour vos orchestres? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer de ce côté-là?
En fait, justement, c'est un projet qui vient du terrain, qui émerge du terrain. Donc les demandes viennent quand tous les acteurs ont envie de monter un orchestre à l'école. Et on n'a pas besoin d'avoir des enseignants formés au sein de l'établissement scolaire, en tout cas en élémentaire, parce qu'en collège, il y a toujours un professeur d'éducation musicale qui coordonne le projet. Et c'est justement la force de ce projet, c'est le partenariat avec l'établissement d'enseignement de la musique ou les musiciens du territoire. Et c'est la complémentarité, c'est-à-dire.
Petite parenthèse à propos des professeurs d'éducation musicale, pour en revenir au choral, est-ce que tous les professeurs d'éducation musicale sont capables de diriger une chorale?
A priori, en collège, oui.
Oui,
en collège, oui. En revanche, en primaire...
En tout cas, nous, on travaille avec 16 établissements scolaires, collèges et lycées. Donc, dans les collèges, il y a un professeur d'éducation musicale. Ce qui serait intéressant, c'est que dans les lycées où il n'y a pas d'option musique obligatoire, il faut donc choisir une option musique. Quand on rencontre des professeurs de musique, ils sont extraordinaires. Et ce qu'ils arrivent à faire avec des jeunes qui n'ont jamais fait de musique, qui ne connaissent pas du tout ce genre de musique, comme ils disent, ils les font chanter à la fois du jazz, du classique. Enfin, ils sont très compétents. J'adore les professeurs de musique des collèges.
C'est surtout les créneaux horaires et le temps qui manque.
Et puis aussi, il y a l'école élémentaire, parce que dans les annonces ministérielles, c'est une chorale dans chaque école. Et pour moi, le problème va être plus...
Le problème de formation, il se pose plus à ce niveau-là.
Voilà, tout à fait, parce qu'un enseignant, un professeur des écoles est généraliste, certes, il doit être capable d'enseigner toutes les matières, mais là, il y a un véritable problème de formation, et c'est là qu'il est important qu'il y ait du MISC, les musiciens intervenants en milieu scolaire, qui puissent venir compléter, donc qu'il y ait des moyens extérieurs qui viennent compléter le travail des enseignants de l'éducation nationale.
Ce qui n'est pas le cas partout, notamment à Paris, où il y a des enseignants spécialisés qui vont dans...
Mais c'est une exception.
C'est une exception. On repart au standard de France Inter. Cette fois, Thomas est en ligne de la Haute-Garonne. Bonsoir Thomas, bienvenue à vous.
Absolument, bonsoir. Oui, j'habite Venerque, donc au sud de Toulouse. Et moi, je suis président d'une association Loi 1901, qui est une école de musique. On a 110 élèves, 12 professeurs. Et on est un quasi-service public, puisque finalement, on fait rayonner cette offre à 10 km à la ronde. Mais la limite de l'exercice, à la fin, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est subventionné qu'à peu près à 17% de nos coûts. Et donc, la grande partie des coûts est sur les parents. Et j'avoue qu'on a du mal à équilibrer les budgets. Donc là, on aurait besoin d'un coup de pouce. Et j'aimerais savoir ce qu'en pensent vos invités.
Bonne question, effectivement, les subventions aux associations. Alors, on a une représentante de l'association, Marianne Blaillot.
Mais c'est vrai que
ça pêche de ce côté-là.
C'est très, très inégal sur le territoire. À partir du moment où c'est les collectivités qui doivent financer, il y a des collectivités où la volonté politique de mettre la culture à disposition de toute la population est forte. Et puis, il y a d'autres endroits où c'est loin d'être la préoccupation. Et dans ce cas, ça pose un vrai problème parce que s'il n'y a pas de subvention publique, on tombe sur des coûts très très élevé pour les familles.
Jean-Marcel Kipfer, en direct de Nantes.
Oui, évidemment. Ça, c'est, après cette question-là, c'est évidemment des volontés politiques locales. C'est la responsabilité des collectivités territoriales. C'est évident que là, il n'y a pas forcément une totale équité sur l'ensemble du territoire. Ça, c'est moi, je trouve que j'ai la chance d'être sur un territoire, la ville d'Angers, où la question de l'accès à la culture, que ce soit à travers des équipements culturels, de la formation spécialisée, où l'éducation artistique est très très mise en valeur et où on a bien compris que c'était un enjeu très important. Mais encore une fois, évidemment, un coût qui est largement supporté par les usagers, par les familles inscrites dans cette école associative, c'est la limite de l'exercice. Mais là, ce sont des questions de politique locale.
Alors vous, comme vous représentez les conservatoires, Monsieur Kipfer, est-ce qu'on peut donner un pourcentage des enfants qui fréquentent les conservatoires? 12 millions d'élèves en France, combien d'enfants en gros dans les conservatoires? Est-ce qu'on a les chiffres?
Alors, c'est difficile d'abord parce que les conservatoires qui sont... Il y a un classement, on va pas rentrer dans ce...
Il y a quoi? Il y a 150 000 élèves à peu près dans les conservatoires?
Oh, je pense qu'il y en a plus que ça. Je pense qu'il y en a plus que ça parce que il y a toutes les structures. Il y a les conservatoires qui sont classés, reconnus par l'État, qui sont répertoriés, mais il y a aussi et qui sont très majoritaires des établissements d'enseignement qui ne sont pas, qui ne rentrent pas, si vous voulez, dans les radars du ministère de la Culture. Et puis aussi toutes les écoles associatives qui participent à ce maillage territorial. Et faut pas oublier que Il y a également ce que font ces établissements avec des élèves inscrits, donc dans les murs, on va dire, et aussi toutes les actions qui sont menées par les conservatoires, les écoles de musique, hors les murs, justement, tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation, tout le travail qui est fait en partenariat avec l'éducation nationale, les classes horaires aménagées, les aménagements d'horaires, les actions de sensibilisation. Ça a été évoqué tout à l'heure, l'action
des musiciens intervenants. Je vais être obligé de vous couper, monsieur Kipfer, parce qu'il est déjà 57 passé. On va faire un dernier tour de table en guise de chacun de conclusion. Claire Gibault, moi j'ai noté quand même dans votre rapport que vous avez fait pour le Conseil économique, social et environnemental, là où ça pêche peut-être le plus à l'école, c'est dans les petites classes. Recul des activités artistiques à l'école maternelle, faible structuration des enseignements artistiques en primaire, c'est peut-être là qui
Il n'y a pas d'instrumentarium, ils n'ont même pas d'instrument. Oui, et c'est vrai que les enseignants auraient besoin d'être accompagnés parce qu'ils ne peuvent pas savoir tout faire.
Marianne Blaillot, en guise de conclusion, votre côté.
On espère que justement le positionnement des ministères va aussi porter les projets comme Orchestre à l'école et qu'on va... Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas subventionné par le public et voilà.
Jean-Marcel Kipfer, si vous êtes capable en 10 secondes de me dire ce qu'il y a de plus important pour vous.
Quel challenge. Nous, notre volonté, c'est de faire en sorte que l'ensemble de cette richesse des dispositifs, éducation nationale, les dispositifs d'orchestre à l'école, etc., et les conservatoires puissent continuer à travailler ensemble pour offrir des offres cohérentes de formation, de sensibilisation, de formation et de pratique musicale le plus large possible.
Voilà, coordonnées et pas en opposition, comme je l'ai dit bêtement tout à l'heure. Merci, j'ai en ton cas entendu le message. Merci à
merci
tous.
Infiniment.
Merci Claire Gibault d'être restée avec nous pendant 2 heures. Merci Marianne Blaillot. Merci à tous ceux qui nous ont appelés ce soir. Pardon de n'avoir pu vous prendre tous à l'antenne. Merci en tout cas aussi à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Lucille Valérie à la technique ce soir. Loïc Frapsos, Arnaud Caillé, Léo Prangère. Merci aussi à nos amis de France Bleu Loire-Océan pour cette liaison à distance avec Nantes. Merci aussi à Josué Monani et Théo Raison qui étaient au standard ce soir. Ils ont eu beaucoup de boulot. N'oubliez pas, demain à 11h à Radio France, concert jeune public avec le Philharmonique, ce sera la flûte enchantée.